Aujourd'hui, eh bien, on reçoit un homme politique. Un homme politique, un grand homme politique. On va dire, c'est pas Tibéri, c'est pas Pasqua, c'est pas Balkany, c'est pas Gérard Longuet. C'est un facteur qui s'appelle, eh oui, Olivier Besancenot. Il n'est pas seul, le facteur. Il est avec un philosophe qui s'appelle Daniel Ben Saïd. Et pourquoi donc? Parce que ces deux-là, le facteur et le philosophe, sortent ensemble un livre intitulé « Pour un socialisme du 21e siècle, prenons parti ». Et pourquoi sortent-ils ce livre? Parce que, eh bien, la Ligue communiste révolutionnaire va disparaître ce 5 février 2009, laissant la place à un nouveau parti, le nouveau parti anticapitaliste. Voilà, ça nous a semblé intéressant de les faire venir tous les deux, en leur laissant un peu le temps de s'ébattre et de s'exprimer, et non pas de réduire à quelques petites phrases ou à quelques affaires de conflit, comment vous allez faire, etc., comme c'est la tradition. Lorsqu'on interroge des gens qui ont l'ambition de faire de la politique, on les limite très souvent à des affaires de stratégie, de cuisine, etc. Là, on leur laisse un peu plus de temps. Voilà, c'est notre sujet du jour. C'est Daniel Mermet, c'est la Massue, j'y suis, pour un socialisme du 21e siècle. Prenons parti avec Daniel Ben Saïd et Olivier Besancenot.
Ça, non, on prévoit jamais exactement, mais après coup, tu te dis, on a senti, parce que, heureusement, parce qu'aujourd'hui, on est dans la dynamique.
Mon patron à la poste des Hauts-de-Seine, qui est en négociation, il nous dit, mais de toute façon, si vous reconduisez la grève, c'est pour le NPA.
Ah ouais,
pour montrer la pointe avancée du mouvement social. J'ai fait, bah bien sûr.
Et il trouve ça bien.
Ouais. J'aurais dû lui demander. Ouais.
Ben voilà, on a commencé.
Ouais,
alors j'ai trouvé une petite phrase là, qui est dans un des textes de présentation du livre. Je reviendrai, je serai des millions.
Ouais.
C'est ce que disait Spartacus, hein. Ouais. Je reviendrai, je serai des millions.
Alors, en tout cas, c'est ce que dit Howard Fast, des derniers mots de Spartacus.
Voilà, je reviendrai, je serai des millions. Et alors là, vous n'êtes pas encore des millions, mais enfin, vous êtes déjà deux. Daniel Ben Saïd et Olivier Besancenot, à la veille d'un double événement. Un double événement, la fin de la LCR. Daniel Ben Saïd, ça fait 40 ans de LCR. C'est fini le 5, ce jeudi, oui. 5. Toc, c'est fini. Et hop, la relève. La relève, c'est le NPA. Et puis voilà, une nouvelle aventure politique qui commence. Et qui commence dans une drôle de situation. On peut dire que vous avez le vent dans le dos quand même, non, Olivier?
Ben, j'espère qu'on l'aura politiquement et socialement. Ça dépend de ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. S'il y a une masse de la population qui reprend un peu confiance en elle, dans la force du nombre, oui. Voilà. Je pense que c'est possible. C'est pas écrit d'avance, mais c'est possible. Alors, je crois que la vraie nouveauté de la situation politique, sociale, économique d'aujourd'hui, qu'on n'avait évidemment même pas imaginé au moment où on a lancé le NPA.
C'était il y a deux ans.
C'était il y a deux ans qu'on
après
a lancé
les
ce processus. Voilà, exactement. C'est que là, il y a une crise économique, mais qui pour l'instant se traduit pas par l'abattement généralisé, qui se traduit pas par de la démoralisation, mais par la journée du 29 janvier où il y a quand même 2,5 millions de manifestants, et puis qui s'inscrit dans un contexte où il y a quand même des conflits sociaux en cascade et où il y a un petit quelque chose dans l'air du temps, quoi. Il suffit de voir ce qui se passe en Guadeloupe, qui est quand même un sacré exemple à suivre, voir que les universités vont s'y mettre, qu'il y a des mobilisations dans le public, dans le privé, contre les licenciements. Donc il y a ça, voilà. Mais pour que tout ce qu'on raconte marche, il faut en effet qu'il y ait du nombre qui reprenne confiance et qui s'immisce sur la scène politique.
Oui, ça peut tomber du côté indignation ou du côté résignation, quoi. Ouais. Hein, Daniel Ben Saïd, ces crises-là, c'est pas du tout la garantie d'un vent dans le dos. Hein. C'est
non,
pas
non, mais on voit bien
porteur de progrès.
Non, on
de
voit bien que ça peut avoir aussi produire des effets négatifs. Hein, chacun pour soi, et sauf qui peut. Les grèves dont il est question aujourd'hui en Grande-Bretagne sur la préférence nationale On est presque dans les slogans de la droite, hein, travailler français, la travailler britannique. Donc on peut avoir des réactions en défense de l'emploi, de détresse et de chauvinisme. Ceci dit, ce qui est frappant et ce qui a été commenté pour les grèves du 29, c'est que la massivité de la mobilisation, certains journalistes ont dit, mais d'habitude, quand il y a une crise grave, tout le monde songe à se protéger, c'est pas forcément propice aux luttes. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que la balance est incertaine entre la peur et la colère. Ça, et ça peut basculer du côté de la colère parce que, enfin, quand même, là, les injustices sont tellement flagrantes, le mécanisme de la crise scandaleux, les dividendes et les bonus continuent à tomber sur dans les poches des traders alors que d'un côté on a les charrettes de licenciements quotidiennes. Bon, là, on a vraiment un scandale social complètement à nu, de sorte qu'effectivement, une journée comme le 29, on voit qu'il y a du monde, ça peut donner confiance. Dernier mot, j'étais samedi matin voir, j'avais signé quand même l'appel des appels, là qui n'est pas du tout les salariés, mais quand on regarde qui était...
C'était quoi l'appel des appels, il faut le rappeler ?
C'est un appel qui, de convergence, se retrouvait l'appel de défense de la statistique publique contre la délocalisation de l'INSEE et la réforme de l'INSEE. Il y avait l'appel souvent la recherche, il y avait l'appel souvent l'université, il y avait le syndicat de la magistrature, il y avait les psychologues par rapport à l'instrumentalisation de la psychiatrie dans les prisons, etc. Et l'impression, c'est qu'on a une série de milieux professionnels qui ne sont pas le cœur du salariat de l'exploitation, mais qui sont touchés par les réformes Sarkozy, par la montée en puissance de l'État pénal, et ce qui se révèle aujourd'hui avec la grève qui, à mon avis, va être très grosse et très forte des facs, c'est que des mandarins, y compris de droite, qui avaient accueilli sans sourciller la réforme Pécresse l'an dernier, se rendent compte maintenant que les facs deviennent des entreprises et qu'eux-mêmes deviennent des employés avec des directeurs de ressources humaines qui vont moduler leurs horaires, distribuer des primes à la tête du client, etc. Donc il y a dans ces milieux-là aujourd'hui une espèce de révolte civique, le sentiment que si ces réformes continuent à passer, aussi bien sociales que institutionnelles, que sociétales, pour reprendre le mot à la mode, eh ben c'est pas seulement un recul social, c'est que la société et ce pays basculent vers autre chose. C'est plus la même société. Mmh. Donc là, je crois qu'il y a les ingrédients d'une grosse révolte.
Les ingrédients d'une grosse révolte, mais la journée du 29, évidemment, a été formidable. Tout le monde est content. Puis le lendemain, on se dit, maintenant, quoi. Il y a un lendemain, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on entend, c'est, bon, on va en faire une autre. c'est un petit peu ce qui s'est passé en Grèce. Ça a été des semaines de mobilisation formidable, très radicale, avec un soutien populaire du fin fond de la Grèce. Tout le monde a soutenu ce qui se passait dans les villes. Et dans les villes, c'était violent. Les bagnoles brûlées, les banques brûlées, avec discrimination. Hein. Certaines banques, pas d'autres. Non. Enfin, c'était quand c'était très maîtrisé, mais enfin, de là à ce que la population suive. Alors la population a suivi, puis maintenant, ben voilà, c'est un feu d'artifice qui disparaît un peu comme ça lui-même, et c'est ce qui nous risque de nous arriver, parce qu'on voit pas de traduction politique à ce qui se passe là. C'est-à-dire que, voilà, alors ça va être le NPA. Le NPA va pouvoir être la traduction, enfin c'est l'ambition, non ?
C'est l'ambition, ça paraît très ambitieux du coup de le présenter comme ça, mais c'est vrai que pour nous le débouché politique du 29 janvier et puis du climat social actuel, c'est qu'il y ait autre chose que simplement les résistances, les luttes et l'action quotidienne qui est maintenant un programme global qui soit capable de nous défendre. Enfin, c'est un vieux projet. En réalité, le projet de faire un nouveau parti anticapitaliste, c'est un projet à la LCR qu'on défend depuis le début des années 90, globalement, après la chute du mur de Berlin. L'idée qu'il y ait une nouvelle période...
La LCR a toujours été anticapitaliste.
Même avant d'exister, elle l'était. Mais dire de faire un nouveau parti, en tous les cas, plus adapté à la période dans laquelle on était, c'était ça. Dire, il y a une nouvelle période historique qui est en train de s'ouvrir, il faut un nouveau programme, il faut un nouveau parti pour le faire, plus large, plus rassembleur. Ce qui manquait, c'était un peu l'opportunité politique et sociale pour le faire. Puis nous, on a fait le constat concret qu'il y a des milliers de personnes qui sont en gros d'accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais qui, pour des tas de raisons, peut-être d'abord, avant tout, par rapport à ce qu'a été la LCR, qui n'était pas prête à rentrer à la LCR, mais qui, sur la base de ce qu'on faisait, était prêt à faire un bout de chemin. Et c'est pour ça que je crois que ce qui vient dans nos comités pour l'instant, enfin, c'est pas que je crois, j'en suis sûr, plus que des ex ou des déçus, c'est des militants syndicalistes, associatifs, qui disent On arrête de pleurnicher pour demander à d'autres partis de nous représenter, on essaye de le faire nous-mêmes. Alors maintenant, pour l'instant, au NPA, il y a un peu plus de 9000 militants. Quand on parle de journée de grève de 2,5 millions de manifestants, on voit que le décalage, il est quand même là. On a la tête sur les épaules, mais c'est des militants. C'est une organisation militante qu'on fait, et puis qui vont essayer de peser dans les rapports de force tels qu'ils sont, avec tout le contexte européen. Je crois que quand même, le gouvernement, tout ce qu'on raconte depuis le début de cette émission, il s'en rend compte aussi. Hein. Le syndrome de Grèce... Le gouvernement, il l'a ressenti dès qu'il a commencé à faire sa réforme sur l'éducation dans les lycées.
Ah oui, recul.
Ça commence à débouler. Tout de suite, on a fait hop, marche arrière. Peut-être pour mieux sauter plus tard. Hein. C'est le genre de la maison chez eux. Mais en tous les cas, parce qu'ils ont peur de la petite goutte d'eau qui peut faire déborder le vase.
C'est la lutte finale. Groupe en nous. Et demain, la terre nationale sera le sort humain.
Ne te retourne pas, camarade, le vieux monde est derrière toi. On se souvient de ce vieille phrase, ce vieux slogan. Daniel Ben Saïd, c'est quand même la fin de la LCR, ça a duré 40 ans. Est-ce que très succinctement, très rapidement, tu peux faire un bilan, le bilan, les casseroles, les...
Le bilan...
Les casseroles, aussi...
Il y en a aussi. Bon, en 40 ans, il serait étonnant qu'on n'en traîne pas quelques-unes, mais... Non, mais surtout le bilan. Ben, le bilan, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est de pouvoir se transformer, de pouvoir se remettre en cause et de pouvoir oser, parce qu'il y a quand même une part d'inconnu dans ce qu'on est en train de faire. Mais c'est d'avoir tenu le coup, disons. Finalement, le principal mérite, c'est que d'avoir... passer le cap des années 80, qui ont été douloureuses. Je crois que ça a été les années de morosité. À partir de 95, les grèves de 95, l'apparition du mouvement altermondialiste, quelque chose a commencé à repousser, qu'on a ressenti. Bon, ben, Olivier en est un peu le symbole aussi, hein, de ce renouveau-là. Mais bon, d'avoir franchi ce cap quand même, où beaucoup de désespoir et des militants et des organisations de 68 ont naufragé ou ont disparu. Bon, ça, c'est le bilan positif d'avoir été des passeurs. Maintenant, on était guettés. Ça, bon, être minoritaire aussi longtemps, ça peut entraîner toutes sortes de pathologies, de dingueries, de sectarisme, etc. Et de routine. Être révolutionnaire sans révolution pendant 40 ans, c'est pas évident. Donc, je crois que ça vient à son heure, le fait de tourner une page, de se transformer pour ouvrir autre chose. Donc, bon, voilà. Alors après, les casseroles, on essaiera de voir ce qui reste au fond, quoi.
NPA anticapitaliste. Là, il y a un mot quand même qui attire. Alors finalement, vous gardez ce sigle, ce titre, ce nom.
C'est alors du jour de notre congrès. Ça peut être changé. Maintenant, bon, faudrait qu'on trouve. Un nom qui fasse le consensus. En même temps, ça le mérite d'être clair, d'abord, parce que le capitalisme est en crise, et puis il y a au moins une gauche qui est clairement anticapitaliste, et puis parce qu'au fond, s'il y a bien la marque de fabrique de ceux et celles qu'on groupe, c'est ça, hein. C'est ceux qui sont écœurés de la société capitaliste, et puis qui pensent qu'il faut s'en débarrasser, en construire une autre, qui n'ont pas de réponse sur tous les sujets, sur le type de société qu'il faudrait construire, et puis qui arrivent à cette conclusion par des biais différents. Il y en a qui arrivent sur ces bases-là pour des raisons écologiques, d'autres sur des questions sociales, d'autres sur des questions de société, d'autres sur des questions internationales, d'autres sur des questions de ras-le-bol dans les quartiers. Le mot anticapitaliste, il n'est pas hyper à la mode dans les quartiers populaires, parce qu'il y en a pas mal, enfin je me souviens de... C'est une anecdote qu'on raconte, mais dans le livre entre autres, mais d'une réunion sur les quartiers où il y en a un qui dit avant d'être anticapitaliste, j'aimerais goûter avant pour être sûr que je suis contre. Donc, mais par contre, dans les quartiers, voilà, le côté nique le système, voilà, donc un peu ce côté des gens qui sont révoltés et qui pensent que, en gros, on peut pas changer cette société-là par une bonne combinaison de majorité parlementaire, voilà, qu'il faut un peu plus que ça.
Daniel Ben Saïd, jusque-là, la LCR, la vision des choses, c'était la transformation du monde se fera par la classe ouvrière. C'était ça. L'idée, c'était la transformation se ferait sur la classe ouvrière. J'ai l'impression que le NPA, c'est pas seulement la classe ouvrière. Il n'y a pas d'adieu à la classe ouvrière là-dedans. Mais c'est pas seulement la classe ouvrière. C'est des indignations, des révoltes, peut-être plus floues, mais dans des domaines plus épars.
Non, c'est pas... C'est
comme un catalogue d'indignation. Non.
C'est pas plus flou. Alors justement, notre problème, c'est que ça soit pas un catalogue de... de griefs juxtaposés, etc., mais de comment on peut les lier en gerbe. Et, ouais. Effectivement, l'idée, c'est qu'après tout, dans notre société, il y a une pluralité d'oppression, de formes de domination, y compris des formes d'exploitation qui ont toutes leurs raisons d'être. C'est pour ça qu'on est pour des mouvements autonomes de femmes. On prétend pas que renverser le capitalisme et transformer les rapports de propriété, ça garantirait automatiquement l'émancipation des femmes et la disparition du complexe d'Oedipe. Là, on est dans d'autres registres et dans d'autres temporalités. Donc, il y a des mouvements autonomes qui ont leur raison d'être. Maintenant, pourquoi et sur quelle base ils peuvent se retrouver, par exemple, aujourd'hui à Belém ou dans les mouvements altermondialistes? Qu'est-ce qui fait qu'aussi spontanément peuvent converger des mouvements féministes, des mouvements de défense des cultures indigènes, etc.? Ben, c'est que le grand unificateur, aujourd'hui, c'est le capital lui-même et c'est la révolte contre la marchandisation du monde, contre le fait que tous les êtres humains soient réduits à l'état de moyens et non pas de fin, là, soient utiles pour faire du profit ou pour servir finalement de sherpa du système, etc. Donc, dans le respect de l'autonomie de ces différents mouvements qui ont leur raison d'être propre, mais trouver les points de convergence et trouver quel est l'ennemi commun à un moment donné. Donc ça s'articule, et de ce point de vue-là, c'est clair que pour nous, il y a quand même deux formes de domination qui traversent toute la société, qui sont les rapports de classe et les rapports de genre ou de sexe, si on veut, qui sont pas équivalents à d'autres, et qui permettent d'articuler ou de rassembler, de donner un sens commun à ces différentes révoltes, protestations.
Alors, toutes ces idées, vous les avez réunies dans ce bouquin qui sort pour l'occasion, « Prenons parti pour un socialisme du XXIe siècle ». C'est aux éditions Mille et Une Nuits, et c'est effectivement très détaillé. Vous avez un projet, on peut dire que vous avez...
Ah, d'habitude, on nous dit, vous êtes toujours anti, alors c'est anticapitalisme, il y a beaucoup de
pour. Non, il y a des chapitres entiers où on est pour.
Ah, il y a beaucoup de pour là-dedans. Mais... Ce qui est d'ailleurs étrange, ce qui nous surprend, c'est que le bouquin est sorti récemment, mais on s'attendait à être interpellé pour une fois, sur nos réponses. Et pour le moment... Il y a peu de débats qui s'engagent là-dessus, parce que bon...
Non, parce qu'évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une telle méfiance, une telle défiance vis-à-vis du personnel politique et de l'homme politique, c'est que quand on voit Besancenot, on lui dit « mais vous allez avoir des conflits avec Mélenchon, et qu'est-ce qui se passe avec Rouillant, et puis alors Tarnac, et puis alors etc. » Non, on va éviter ça, puisque les autres le font. Puisque les autres le font, on va éviter. Mais on va venir quand même sur certaines de vos idées, et certains de vos projets, et qui tiennent en une formule, transformation révolutionnaire de la société. Transformation révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire révolutionnaire aujourd'hui? Tout le monde est révolutionnaire. Auchan est révolutionnaire, Carrefour est révolutionnaire, et Besancenot est révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour Besancenot révolutionnaire aujourd'hui?
Révolutionnaire, ça veut dire être convaincu que c'est pas dans le cadre des institutions actuelles que le changement radical peut intervenir. Voilà, que quand nous on fait un nouveau parti, c'est aussi peut-être l'idée de sortir d'une certaine culture de l'extrême gauche qui consiste à être se vivre un peu éternellement minoritaire, donc d'assumer qu'on peut créer des majorités d'idées. Et donc on peut à un moment donné, puisque c'est ça notre projet finalement, que ça soit la majorité de la population qui ait le pouvoir et qui se répartisse les richesses, d'estimer qu'on peut voilà essayer de créer ces majorités d'idées-là, donc qu'un jour elles gouvernent. Et puis c'est peut-être le plus complexe, le faire avec ceux et celles qui n'ont pas d'héritage politique au sens partidaire. Voilà, qu'on soit arrivé à l'idée de la révolte globale face au système capitaliste à partir de leur propre engagement, par rapport à la lutte de classe dans une entreprise pour les syndicalistes, par rapport aux luttes contre les discriminations raciales ou sociales dans les quartiers populaires, et qui commence à aborder cette réflexion sur l'autre type de société qu'on peut faire et les moyens d'y parvenir. Voilà, donc c'est pour ça que nous on dit qu'on veut essayer de faire finalement l'outil politique dont la gauche révolutionnaire du XXIe siècle a besoin, donc révolutionnaire au sens... contemporain du terme, c'est-à-dire voilà ceux qui ont envie de cette autre société et qui n'ont pas d'illusion en tous les cas dans les moyens qu'une partie de la gauche a tenté jusqu'à présent pour le faire.
Dans le mot révolutionnaire, Daniel Ben Saïd, il y a quand même une perspective historique. Ça renvoie à toute l'histoire, à toute une histoire, à tout un tas d'histoires.
Oui, bien sûr, il y a une histoire, il y a une histoire de l'opprimé, il y a une histoire de l'émancipation, donc ça.
Et cette histoire continue.
Oui, ça, on pense que...
Cette lutte-là, en tout cas, continue.
On fait rien sans mémoire. C'est une mémoire qui se travaille, mais qu'il faut transmettre. Mais ceci dit, dans Révolutionnaire, c'est aussi très concret au présent. Hein. C'est opposer une logique à une autre. Et aujourd'hui, on est dans une logique de concurrence, dont la forme extrême, c'est la guerre de tous contre tous, etc., à laquelle on oppose une logique de solidarité, d'égalité, et de biens communs, que ce soit les services publics, les biens communs de l'humanité. Donc, au cœur de finalement d'un changement révolutionnaire, il y a un changement des rapports de propriété qui sont aussi le pouvoir. On voit bien aujourd'hui que le Parlement pèse peu par rapport aux décisions des conseils d'administration ou des banques. La propriété, c'est réellement le pouvoir. Et la deuxième chose, quand même, dans révolutionnaire, c'est l'idée qu'on peut opposer la légitimité à la légalité. Le droit, après tout, c'est un produit historique. Il n'est pas tombé du ciel, contrairement à l'image de Moïse sur le Sinaï. Donc, on peut le changer. Mais pour le changer, il faut le transgresser. Et bon, et même une chose élémentaire, le droit de grève, c'est un droit contre un autre. Le droit de grève, ça s'oppose au droit de propriété. Aujourd'hui, il a été acquis par des luttes, mais c'est une manière de contester. Aujourd'hui, ben, quand le collectif La Pelle et la Pioche fait des distributions ou des pique-niques fin de mois, c'est une transgression de la loi. Donc, on ne peut pas changer une loi qui a été faite quand même sur la base d'un rapport de force sans la transgresser, sans la remettre en cause. Alors bon, donc voilà, il y a un moment de rupture. Après, la forme que ça prend au XXIe siècle, personne ne sait. Mais on sait en revanche qu'on ne pourra pas transformer simplement et que c'est une combinaison. Alors on nous dit souvent, est-ce que c'est les urnes ou la rue? On dit c'est les deux. Au Chili, ça a commencé par les urnes, ça a continué par la rue. Parfois c'est l'inverse, ça commence par une grève générale et ça se traduit après dans des rapports de force électoraux. Évidemment, ça fait partie des rapports de force, mais c'est la combinaison des deux.
Hey, debout là-dedans. Moitié de ces troupes, tactique, on lève le camp d'hier. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Les plus sceptiques, maraboutelés. Les plus réfractaires, contaminés. Fais le forcing, sors la tiraille, sort. Les munitions, l'artillerie, braquée. Hey, comme sur des positions, bouge-les. Comme un Anelka, bouge les défenses. Réveille-les, comme Zizou, réveille le stade de France. Soir, on vous met. Ce soir on vous met la fière. Ce soir on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Mission Haïti à coup de ghetto blaster. Message de paix de Buenos Aires à Ramallah. Tous solidaires de Dakar à Jakarta. Faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveillez-les et dis-leur c'est salutaire. Debout là-dedans. Motive tes troupes, tactique, on lève le camp d'hier. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Y'a urgence, faut qu'on se rassemble, on se mobilise. On s'organise, réalise, qui serait temps qu'on dramatise. En bas de chez Watt, y'en a qui crèvent la dalle. Ça se part en live, et les chances sont inégales. Y'a plus de repères, les minots sont du père. Le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi. Motive tactique, ton clan, ta familia. Trembler les murs, vibrer les persiennes. Ça brams, faya, de l'île à Marseille. Monte la sauce, les passeux, faut que tu les traumatises. Balance, fais péter leurs oreilles, tu les brutalises. Comme des sales gosses, comme des sales gamins. Réveille-les, réveille tes voisins. Dis-leur c'est marre, dis-leur que ça tape. Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la patate. Hey, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp d'hier. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier. Qu'on veut pas de militaires.
On continue avec Daniel Ben Saïd et Olivier Besancenot, un moment historique, en tous les cas pour vous deux. Fin de la LCR, début du NPA, parti anticapitaliste. Je pense quand même que ce mot capitalisme est revenu là en force il y a quelques semaines, quoi. Il avait disparu, il était refoulé, il était lié à vos vieilles lunes, Trotsko, je ne sais quoi. Et tout d'un coup, tout le monde l'a à la bouche. Hein. Celui qui l'a le plus à la bouche, c'est sans doute le président de la République aujourd'hui, qui est en train de prendre des notes en nous écoutant tous les jours pour essayer de voir comment il va s'en sortir. Il dit, ah, il y a Ben Saïd aujourd'hui, je prends des notes. Il y a Besancenot. Il arrête pas de prendre des notes. Il a son truc de jeudi soir. En même temps que la fin de la LCR, c'est quand même le
juste
discours.
Avant le NPA, je suis sûr qu'il l'a
juste.
Fait. Le seul moment où on va pas être organisé politiquement.
Il va vous couper l'herbe sous les pieds avec sa réforme et il va refonder lui aussi le capitalisme. Non, mais c'est vrai qu'il y a un concours de circonstances. J'ai l'impression que tu as reçu un concours de circonstances, quoi.
On pourrait presque dire ça. C'est vrai qu'on serait presque arrivé premier dans un concours de circonstances.
Quelle vision vous avez de la situation actuelle? Parce qu'on est quand même en présence d'un crack. Ignacio Ramonet appelle ça un crack parfait. Il y a un ensemble d'éléments là qui convergent pour cette explosion ou cette implosion, comme on voudra. Il y a 20 ans, c'était la chute du mur. Là, c'est l'autre mur. C'est Wall Street qui s'effondre. Et c'est pas rien, quand même. Quelle analyse vous faites de la situation ?
Que la situation économique au niveau international plus le contexte social, ça ramène au devant de la scène des questions stratégiques profondes sur la question du pouvoir dans un certain nombre de domaines et puis sur la question du type de système qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que le mot capitaliste ou anticapitaliste, c'était encore un gros mot il y a 2 ou 3 ans, même dans une partie de la gauche radicale. Hein, je me souviens qu'on parlait que de candidature anti-libérale,
oui,
anti-capitaliste. Dire anti-capitaliste, c'était nous qui on apparaissait comme les monsieur plus de la politique, hein, pour marquer notre différence. Sauf que nous, on essayait de l'amener par rapport à des éléments concrets sur, en effet, le fait qu'il ne s'agit pas simplement de proposer une autre répartition des richesses, mais parler du rapport de propriété. Aujourd'hui, le capitalisme a eu ce talent malheureux de mettre dans nos têtes ce venin qui consiste à mettre à pied d'égalité la propriété privée à usage personnel, type la maison, la voiture, à pied d'égalité avec la propriété privée des grands moyens de production, à qui revient le travail de tous. Aujourd'hui, c'est volé par une minorité et nous, on aimerait réfléchir à ce modèle où le fruit du travail de tous reviendrait entre les mains de tous et toutes. Alors non seulement le mot capitaliste revient de plein fouet, mais mieux que ça encore. Enfin, pour ma génération qui a été bercée en gros à l'idée que au début des années 90, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le capitalisme étaient condamnés à devenir des staliniens en puissance. Hein, on était renvoyé à ce qui se passait à l'Est. Voilà, on pouvait être trotskiste, libertaire, guévariste, écologiste radical, on était condamné à ça. Et l'argument massu à l'époque, c'était dire, ok, on vous concède que le capitalisme est un peu injuste, c'est vrai qu'il crée de la barbarie, des guerres, du racisme, mais c'est pas bon pour l'écologie, mais au moins il fonctionne. Et puis il y a eu ce mot magique en pleine crise aux 20h, où là c'est pas nous qui l'avons dit, c'est des grands responsables de firmes plus des économistes, parce qu'il y en a des économistes à la télé en ce moment, qui ont expliqué, c'est une crise systémique. Crise systémique, ça veut dire qu'ils nous ont expliqué que sans rire, en 2 jours, le système a failli s'écrouler de lui-même. Pour le nouvel horizon indépassable de l'humanité, on fait mieux quand même. Donc ça veut dire que cette question-là revient parce qu'on est obligé et condamné, je dirais, à réfléchir à un nouveau mode de production, de consommation. Et non seulement c'est dans l'air du temps par rapport à la crise économique, mais on en parle aussi dans le livre, c'est venu aussi par le biais de la crise écologique, je crois, ces dernières années, notamment par le biais du réchauffement climatique. Le fait de dire qu'en gros, l'économie de marché, c'est une économie où le marché fait la loi, où on crée d'abord, on se pose les problèmes ensuite, a posteriori, de l'attribution finalement des ressources, quitte à faire du gaspillage, du chaos climatique, des catastrophes sociales, qu'il faudrait plutôt changer de logiciel et réfléchir à l'inverse, comment on peut satisfaire les besoins de la population sur toute la planète en établissant une production à la hauteur du strict raisonnable par rapport à l'environnement, c'est-à-dire essayer de planifier démocratiquement un autre type de fonctionnement. Le mot planification, il est revenu même pas par notre bouche à nous. Dans son registre à lui, c'est Nicolas Hulot qui en a parlé. En disant, il dit, je sais que le mot fait peur, mais il va falloir se reposer le problème. Donc je pense qu'il y a, par plein de biais différents, ce retour des questions de fond, finalement.
Pour ajouter un mot quand même, c'est quand même drôle que le mot libéralisme, qui était sur toutes les bouches il y a un an, est devenu quasi pornographique.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Personne ne se revendique du libéralisme.
Non, non,
alors ce malheureux Delanoë, qui s'est révélé libéral à contre-temps, au moment de la catastrophe, bon, ça a été plus que de l'audace, contrairement, c'était de la témérité, hein, de sa part. Bon, il le paie cher aujourd'hui. Et l'anticapitalisme, plus que ce qu'a dit Olivier, bon, on ne va pas rentrer dans le débat sur la crise. Il y a un côté classique de, on a dit crise, bulle financière, etc. Derrière, ce qui apparaît, c'est une crise de surproduction assez classique, qui a été masquée par la course à l'endettement. Quand on voit aujourd'hui le bilan, les États-Unis, 348% d'endettement, ce qui veut dire que pour payer la dette privée et publique du PIB, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils travaillent 3 ans et demi rien que pour rembourser la dette privée et publique. C'est hallucinant. Donc ça a caché une crise de surproduction. Mais derrière, il y a un dérèglement plus général. C'est que mesurer toute richesse, mesurer les dégâts écologiques, ce que coûte à l'humanité le stockage des déchets, la déforestation, la pollution des océans, etc., par les talents instantanés de la bourse, la mesure monétaire, et derrière ça, finalement, le temps d'horloge, le temps de travail, ça devient complètement irrationnel et désastreux. Donc l'idée pour nous, c'est pour ça
que comme seule mesure du monde,
seule
de la
mesure
vie,
du monde,
du devenir.
C'est pour ça que le terme d'anticapitalisme, derrière ça, faut lui donner tout son poids en réalité. Hein. C'est un système qui devient réellement dingue. C'est derrière une crise relativement classique, on compare avec 29 en disant bon, la différence c'est qu'elle est mondiale, l'autre était moins synchronisée, celle-là elle touche tout. Mais en plus, c'est une crise de la démesure du monde. Donc, c'est vraiment une crise historique. Et du coup, si on donne un contenu, on creuse le au-delà des mots, ce que veut dire l'anticapitalisme aujourd'hui, je crois qu'on peut justement déboucher sur des réponses radicales dans différents domaines, pas seulement économiques et sociaux, écologiques, mais même dans l'organisation de la vie quotidienne, dans les formes de consommation, dans la réorganisation même de la ville et de l'urbain, etc. Qu'est-ce que c'est que vivre dans une cité aujourd'hui ?
Et on a une formidable pédagogie politique par le fait. On a un président qui dit « il n'y a plus d'argent dans les caisses », et qui, face à la crise financière, trouve des milliards de dollars pour renflouer un système financier qui s'empresse de verser des bonus à ses chefs et des dividendes à ses actionnaires. Ça, cette pédagogie-là, toute l'œuvre de Ben Saïd tient dans cette petite histoire-là. C'est-à-dire, quelque chose comme ça fait avancer la conscience politique d'une façon formidable.
Ils sont riches parce que nous sommes pauvres. Demande à ton pote dont la boîte a été restructurée s'il a touché le pactole. Mais ce n'est pas une question de classe. Le thème des classes sociales ne fait pas vraiment partie des discussions de tous les jours dans la vie politique américaine. À l'ombre de la bombe atomique, tout est cassé, rien ne fonctionne. Pourtant, toute cette merde, j'ai bien dû la payer. Une meilleure vie que ça là, ça a bien existé. Ah, le bonheur américain, mais c'est pas vraiment le pied. Et j'y vois pas clair, comme tous les copains qui se font défoncer la gueule. Tu travailles si tard qu'à la fin tu t'écroules. Et tu gagnes quoi ? Une, deux pièces ? Pas vraiment le bon deal. Mais je travaille toute ma vie pour finir le mois. Mais je travaille toute ma vie pour leur payer le foie gras. Il faut bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Que ce soit moi ou le type en bas de la rue, un gamin de Tijuana ou une maman au Ghana, il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. La société est divisée en classes. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qui gagnent très très peu. Et il y a des gens qui ne travaillent pas trop dur. Et quand ils travaillent, ce n'est finalement que des ennuis pour nous autres. Ce qu'ils produisent, c'est dangereux.
Le facteur et le philosophe, ils se sont mis à deux pour écrire ce bouquin « Pour un socialisme du 21e siècle, prenons parti » qui vient de sortir à l'occasion de la disparition de la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, au bout de 40 ans, et la naissance du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Olivier Besancenot et Daniel Ben Saïd. Je voudrais quand même qu'on prenne quelques points de votre bouquin qui est fait de lettres. Vous adressez des lettres, c'est très aimable, à Laurence Parisot, à Christine Lagarde, à un chômeur qui ne comprend plus, à un camarade plombier polonais, à Xavier Darcos, etc. On voit un petit peu là, à Daniel Vaillant également. Mais il y a aussi tout ce pourquoi vous êtes. Il y a anticapitaliste, mais pour. Parce qu'évidemment, on manque pas de vous dire mais c'est bien malin votre truc. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Hein, c'est ça. On demande ça tous les jours, toutes les soirs. Concrètement, quoi ? Alors, je prends un peu au hasard là, du chapitre « Vers un socialisme du 21e siècle » pour une société sans violence. Ça veut dire quoi, une société sans violence ? Alors que, évidemment, vous êtes toujours soupçonnés, vous, les révolutionnaires, issus de l'histoire de violence.
Mais en fait, on s'est reposé ce problème du chapitre à partir d'une anecdote. C'était Ken Loach qui était venu, on avait fait une interview croisée à l'époque de son film It's a Free World, et on parlait comme ça, et évidemment, comme j'étais présent, la question revenait sur le tapis de la violence en politique. Il a dit ça, mais ceux qui veulent changer le monde, même de façon révolutionnaire, c'est ceux qui se battent pas pour plus de violence, mais pour qu'il y ait un monde oui, et plus de violence. Donc c'est vrai, dans ce chapitre, on essaie d'analyser un peu d'abord les différentes formes de violence de la société actuelle, qui sont réelles, dont on parle peu. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les conférences de presse à l'Élysée, il y a rarement des journalistes pour poser la question « Mais que pensez-vous, Monsieur Sarkozy, de la violence en politique ?» Il en connaît pourtant un registre, un rayon, de la violence sociale à la violence tout court, des CRS qui ont par exemple été envoyés contre les salariés de Renault-Sandouville au Havre, qui ont eu la mauvaise idée de se mettre en grève le jour où le président leur rendait visite parce qu'il voulait pas qu'il fasse son énième numéro, y compris des coups de matraque. Ça, c'est de la violence concrète. Donc nous, on essaie d'abord de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ça, en essayant y compris de comprendre même la violence tout court, c'est-à-dire du point de vue de l'insécurité, et comprendre aussi cette chaîne de la violence. On parle de la loi de la circulation de la violence dont parlait Bourdieu, c'est-à-dire de comprendre aussi tout ce phénomène auquel on assiste, pas simplement en France, mais quand on prend le cas de l'Amérique latine, là, l'insécurité... c'est une réalité qui est liée à une société qui en est fait de plus en plus inégalitaire, donc de plus en plus injuste et de plus en plus violente. Et on essaye, nous, à la fois d'aborder et de présenter des mesures d'urgence par rapport aux problèmes d'insécurité, qui ne sont pas des mesures sécuritaires, contrairement à ce qu'on pense. Il vaut mieux mettre un mineur, par exemple, là aussi, dans les foyers de la PJJ, de la protection judiciaire et de la jeunesse, plutôt que la prison, parce que le taux de récidive est plus fort après la prison plutôt qu'après les foyers de protection judiciaire et de la jeunesse. Sauf que c'est les foyers de protection judiciaire et de la jeunesse qu'on ferme, et les prisons, il y en a de plus en plus. Voilà, on essaye d'aborder une série de mesures d'urgence, et puis on aborde la question de la violence révolutionnaire aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler, d'expliquer en quoi, pour nous, Daniel parlait tout à l'heure de l'expérience du Chili, mais voilà, c'est une question où la question de savoir comment on fait pour protéger jusqu'au bout un phénomène d'émancipation collective par rapport à une minorité qui se laisse pas faire. Voilà. Donc on essaie de dire en quoi voilà, les révolutionnaires ne sont pas des pacifiques bêlants, ne sont pas des violents sanguinaires, simplement des militants pragmatiques qui ont une histoire, qui essayent de s'en servir pour voir à quoi on peut l'utiliser aujourd'hui.
Quand on voit les manifs du NPA et de la LCR encore pour quelques heures, on voit toujours...
Ah
oui.
Il y aura des collecteurs, hein, promis.
je pense notamment aux deux dernières manifs pour Gaza, suite à ce qui s'est au massacre de Gaza. Et la LCR était derrière, hein, les partis, le Parti communiste, les Verts, tout ça, c'était à la fin du cortège. Il y avait comme une sorte de rupture, quand même, hein, entre ces partis, ces façons de voir les choses, de voir le monde, et puis tous ceux qui étaient devant, et qui étaient pour beaucoup, des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, des quartiers populaires, dits sensibles, etc., qui s'étaient descendus et dans la rue, s'accaparant, occupant ces rues qui leur ont été si longtemps interdites ou intimidantes pour eux. Mais là, quel lien vous allez avoir? Je pense évidemment aux émeutes de 2005, et ensuite suivi par le CPE, où on a vu qu'il n'y avait pas de lien, la liaison entre les étudiants, plutôt des classes moyennes qui se sont mobilisés, et les jeunes des quartiers populaires en révolte. Comment s'arrange le NPA là-dedans, qui se veut un parti qui va vers les jeunes et qui est fait de ces nouvelles générations?
Je pense d'abord que le côté en dehors des cortèges, c'est là aussi c'est un peu ce qui flotte dans l'air du temps. Hein. C'est vrai pour les manifs de Gaza, mais c'était vrai pour les manifs du 29 janvier. C'est la première fois qu'on voit devant le carré de tête officiel des milliers et des milliers de manifestants qui viennent en famille, voilà, en dehors des cortèges traditionnels. Donc ça c'est vrai que, mais ça c'est plutôt positif parce qu'en général ça sort un peu des sentiers battus, et je pense que les manifs, à l'image de ce qu'on fait en politique, nous on fait pas de démagogie, c'est un mélange de vieux et de neuf. Hein. On veut faire du neuf, mais on fait pas du neuf qu'avec du neuf. On fait pas du neuf qu'avec de l'ancien. C'est pour ça qu'on pense que la LCR faut la dissoudre et qu'il y aura pas de parti dans le parti. Mais voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors dans quel dosage, ça on le verra au fur et à mesure. Sur la question des quartiers et de la jeunesse et de cette nouvelle génération militante, en effet, qu'on voit apparaître, je pense que les temps en politique sont pas les mêmes. Je pense qu'on a eu raison, nous, d'avoir déjà l'analyse qu'on avait à l'époque, de dire qu'il y avait une nouvelle génération militante qui était pas unifiée, mais que c'est vrai que deux événements fondateurs qui sont la révolte des quartiers populaires en 2005 ou le mouvement contre le CPE en 2006, ça produirait forcément de la politique. J'en rajouterais un troisième qui a pas de date en tant que tel, mais qu'est-ce qui se passe dans le salariat? Parce que on peut pas penser finalement que depuis plus de 6 ans, il y a des luttes de la jeunesse pratiquement chaque année, sans qu'à un moment donné, ces jeunes-là débarquent sur le monde du travail et puis se sont déjà fait les dents juste avant. et débarquent. Enfin, c'est des employeurs, ils sont déjà en partie déjà politisés. Donc, par exemple, pour prendre la seule expérience que j'ai en ce moment de la mobilisation qu'on fait des postiers des Hauts-de-Seine, on fait des assemblées générales départementales à 150 grévistes. La moyenne d'âge, c'est 25, 35, 40 ans. Voilà, et c'est leur premier grand mouvement, c'est leur première grève. Et je pense qu'il y a quelque chose qui... Et la grève de Citroën, Peugeot, de PSA Aulnay-sous-Bois pendant la campagne, qui avait marqué sur les 300 euros, c'était en partie des jeunes des quartiers qui étaient venus dans l'entreprise, sur lesquels les syndicalistes de tous bords au début n'auraient pas misé beaucoup, parce qu'ils se disaient, ceux-là, ils viennent pas nous voir. Et puis finalement, la mayonnaise, elle prend au fur et à mesure. Donc nous, à notre échelle, on essaye de le régler par des expériences politiques et militantes. À Avignon, par exemple, le fait d'être intervenu sur la prison du Pontet par le biais de la LCR, on a côtoyé des jeunes du quartier de la Cité de la Rocade, un groupe de militants qui font de l'aide scolaire, du soutien scolaire, qui font toute une série de trucs au quotidien dans le quartier. Ceux-là sont présents dans le comité avec des militants qui viennent d'Attaque, d'autres qui viennent du mouvement syndical, et puis je crois qu'aux uns et aux autres, ça permet d'avoir un regard un peu différent. Il y a des syndicalistes d'entreprises du privé qui sont venus à nous par le biais des licenciements et qui portent peut-être un regard maintenant différent sur le système carcéral. C'était pas forcément gagné d'avance, même dans la classe ouvrière, même dans la classe ouvrière politisée. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des jeunes des quartiers de la Cité de la Rogade qui regardent des salariés de la cinquantaine d'années un peu différemment aussi. Voilà. Mais je pense qu'il y a que la pratique qui permettra de régler ça. On en est qu'au début, là aussi. Hein.
Scalpel, commando Malik, essence. La tournure que prennent les événements, il nous reste peu d'alternatives. Tu peux t'accrocher à ton confort luisant ou décider de lutter contre le système et ses dérives. Le problème c'est que chacun pense au fond de lui qu'il a trop de choses à perdre. Il s'accroche à une illusion qui rend la face du monde trop terne. Dans mon combat je n'ai pas de richesse matérielle à proposer. Je n'ai que des sacrifices et de la solidarité à t'opposer. Des rêves à partager, des angoisses et des sentiments humains. Et devant ses yeux émus je te jure prochain que tu te sentiras bien. On va pas se voiler la face, divers semblants. Ne rien faire, c'est cautionner l'oppression et l'emprisonnement. Y'a pas 36 équipes, y'a que deux camps. Et c'est pas une question de bien ou de mal, mais de classe, et bizarrement. Ceux qui possèdent sont peu nombreux. Messieurs, nous sommes une multitude et eux, ils sont
camarades,
si
camarades, levez les poings, debout pour empoigner notre destin. Révolution. Camarades, levez les poings, debout car l'avenir nous appartient. Révolution.
On exige une meilleure répartition des richesses, l'abolition des monopoles et la fin des privilèges. Ils obligent les gens à se radicaliser, rêve de la bourse et d'une situation normalisée, de stabilité des marchés, et le pire c'est qu'ils persistent, se complaisent dans l'apartheid et les idées racistes. Conscience de nos devoirs assez rapidement, et de se dire que tout ça n'est pas pour nous mais pour nos enfants.
Camarades, levez les poings, debout pour empoigner notre destin. Révolution, camarades, levez les poings, debout car l'avenir nous appartient. Révolution,
t'es où crevé.
Revenons à des questions qu'un vrai journaliste devrait vous poser. J'ai lu un sondage Opinionway qui indiquait en septembre 2008 que si les présidentielles étaient en 2008, en septembre 2008, Besancenot aurait 13% de voix. Tu l'as lu ça ?
On me l'a dit.
Quelle popularité !
Dommage que ça soit pas arrivé au moment de l'élection. Hein. Parce qu'on en est quand même très très loin. Les sondages, qu'ils soient bons ou mauvais pour nous, on a appris plutôt, à pas s'en servir de boussole pour notre orientation. D'abord parce que je pense qu'on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, que l'utilisation du sondage, pour le moment de dire j'en ai ras-le-bol, je dirais bien que je voterai Besancenot, et puis quand faut y aller, c'est une autre histoire. Et puis nous, on se souvient des dernières élections européennes, hein, où on avait été... quand même bien vacciné, où à l'époque on se présentait avec Lutte Ouvrière, alors on nous prévoyait des 10, des 11, des 12%, puis c'est pas ça qui s'est produit. Donc
les sondages, alors on peut pas d'un côté s'en moquer ou les critiquer quand ils sont mauvais en disant c'est du bidon, et les avaler tout cru quand ils sont favorables. Bon, tant mieux, c'est vrai que ça indique quelque chose, mais on n'est pas en situation électorale encore. Et on sait que le mécanisme électoral remet en mouvement les idées de vote utile et tout ça. Donc c'est à la fois significatif et probablement surévalué si on parle en termes électoraux. Donc il faut là-dessus surtout pas que les militants se nourrissent d'illusions. Mais en revanche, oui, saisir ce qu'il y a de positif là-dedans. On sent que ça répond à un mouvement dans l'opinion en partie.
Besancenot, député européen.
Bah, c'est pas mon rêve dans la vie, voilà, je le dis franchement, c'est pas un cauchemar non plus. Moi j'ai vu dans des articles de presse là aussi, alors qu'on était nous en pleine crise, on était dans autre chose, on était dans Gaza, dans l'utilité sociale, j'ai vu des articles qui sortent dans la presse en disant, Besancenot hésite à devenir député européen. Genre comme si je me réveille un matin en me disant, tiens, ça va être compliqué, oubliant au passage qu'il faut être élu pour ça, oubliant aussi au passage qu'on s'est déjà posé le problème aux dernières élections dont je parlais avec Hello. Moi j'étais tête de liste et comme il y avait ces sondages qui nous donnait un certain chiffre, l'hypothèse que je puisse aller là-bas pour utiliser ce mandat, c'est quelque chose qu'on avait envisagé. Donc moi, j'irai là où je suis le plus efficace, le plus utile. Voilà. Et puis, les élections européennes, comme il y a un découpage hyper bizarre et qui correspond à rien, par ailleurs, il y aura 7 circonscriptions, il y aura autant de têtes de liste, voilà, qui est ou pas accord avec d'autres, ça sera aussi l'occasion de faire émerger de nouveaux porte-paroles. Donc il y a tout ça. Parce que nous, on a un autre problème, qui est aussi une petite contradiction pour nous, hein. C'est vrai qu'en 2002, quand on est parti dans... On avait tout imaginé, sauf ce qui a suivi derrière. C'est vrai que se présenter à une élection présidentielle quand on est contre la Ve République, quand on propose d'abolir la fonction présidentielle, ça peut faire partir des paradoxes. Ça cultive aussi, malgré nous parfois, l'idée de la personnalisation, alors que c'est une idée contre laquelle on milite. Puisque nous, notre projet de société, c'est de dire on fait tous un peu. Il ne faut pas se mettre derrière un leader. Mais c'est vrai que, mais pas par des gens mal intentionnés cette fois-ci. Dans la rue dont je parlais, des fois j'entends dire « Olivier, on est derrière toi ». Et quand on est militant révolutionnaire, en fait ça casse le moral d'entendre ça. Parce que nous, on essaye de dire « on y va ensemble, il faut que chacun fasse un peu ».
Ce que faisait Marcos, il dit, d'abord il était sous-commandant, c'est un ordre militaire qui n'a jamais existé, et il disait je commande en obéissant.
Et puis je suis tout cela à la fois en expliquant, voilà, et je pense qu'on a besoin de ça. Donc tout dépend pas de nous, là on va essayer de peser nous, concrètement au NPA, c'est de faire émerger de nouveaux porte-paroles. Voilà, et ça dépend de nous, et ça on va le faire. À la première direction qui aura lieu après le congrès, on donnera des porte-paroles qui donneront à voir d'ailleurs de la réalité de ce qu'on est déjà. Avec des femmes, des entreprises du privé, avec des jeunes des quartiers populaires, pour donner plusieurs visages, plusieurs voix, et sortir de cette personnalisation qui est bien pratique pour nos adversaires en plus. Parce qu'à un moment, on fait monter, et puis après, quand c'est gênant, hop, on fait descendre, et puis on discute plus du fond.
Et Olivier sera rétrogradé sous commandant.
Merci à tous les deux. Voilà, merci Olivier Besancenot et Nadia Bessain. Je rappelle le titre de leur bouquin, Prenons parti pour un socialisme du 21e siècle. C'est aux éditions Mille et Une Nuits. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Je vous rappelle que demain, nous recevrons Pierre Péan et Xavier Monnier du site en ligne Bakchich, journal en ligne Bakchich. À la technique aujourd'hui, Arnaud Chapat et Lidvine Caron, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutier qui ont réalisé cette émission, assisté de Charles Perry, Agnès Lebotte attend vos messages, ça va chauffer. Sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.